Bonjour à chacune, bonjour à chacun. C'est un privilège d'être là, devant vous, en tout cas devant vos écrans. Voilà, donc je m'appelle Philippe, j'habite Valence, je suis marié, nous avons eu deux enfants et puis quatre petits-enfants. Mon épouse en ce moment n'est pas avec moi parce qu'elle est sur un autre ordinateur, puisque nous avons un culte spécial dans notre église, dans lequel d'ailleurs nos enfants, enfin on a une fille et sa famille qui sont au Tchad actuellement et qui participent en vidéo à ce culte. Donc c'était important aussi qu'elle soit dans ce culte. Voilà. Je suis le responsable de l'organisme missionnaire MENA. Et donc, après la prédication, j'aurai l'occasion de présenter cette mission. Et puis, nous terminerons par un temps de prière. Voilà, on vit ce culte en Zoom. Vous savez, la première fois que j'ai entendu parler d'un culte virtuel, on n'employait pas le mot Zoom, enfin à l'époque, c'est il y a une dizaine d'années. J'étais très sceptique. Je me disais, mais un culte virtuel, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut vraiment vivre une communion fraternelle dans un culte virtuel? Et puis j'ai assisté à une conférence internationale où il y avait des responsables d'église du Maghreb. Et là, j'ai compris qu'un culte en ligne était presque obligatoire ou important pour certains chrétiens. C'était des chrétiens de Libye. Vous savez, on ne parle pas beaucoup de la Libye, il y a quelques dizaines de chrétiens seulement. Et pour eux, le seul moyen de se réunir, de pouvoir adorer Dieu, eh bien, c'était à travers un culte en ligne. Alors, ce jour-là, j'ai compris aussi toute l'utilité de la technique et que cette technique, eh bien, pouvait vraiment servir à la gloire de Dieu. Donc ce matin, eh bien, on peut aussi s'associer à toutes ces églises qui ne sont pas en ligne à cause de la crise sanitaire, mais qui sont en ligne parce que les obligations, la persécution, eh bien, les obligent à être en ligne les uns des autres. Et je me souviens à cette conférence qui réunissait un peu les responsables, un frère et une sœur se sont rencontrés puisque c'était en présentiel, cette conférence, et ils ont réalisé soudain qu'ils ne se connaissaient qu'à travers un culte en ligne. Et là, quelle joie, vous imaginez, de se serrer dans les bras, de pleurer ensemble et de pouvoir vraiment mieux se connaître. Voilà, donc quelquefois on se plaint de nos cultes en Zoom, mais c'est important aussi de réaliser que dans certains pays, ben c'est le seul moyen qu'ils ont. Voilà, je voudrais parler aujourd'hui d'un sigle qui s'appelle la VMV. On parle beaucoup de VMV dans nos entreprises, dans nos associations et même de plus en plus dans nos églises. Alors, qu'est-ce que ça signifie VMV? Eh bien, cela veut dire vision, mission et valeur. Ça représente un petit peu la carte d'identité d'une entreprise, d'une association, d'une église. La vision, eh bien, elle va répondre à la question, qui sommes-nous? Une vision, elle est permanente, elle change très très rarement. Voilà, quand on a une vision, eh bien, on va la suivre souvent jusqu'au bout de la vie de la structure. La mission, eh bien, ça répond à là où les missions, parce qu'il peut y avoir plusieurs missions, c'est pour répondre à la question où est-ce qu'on va? Où voulons-nous aller? La mission est souvent déterminée dans une période limitée dans le temps. On parle souvent de 5 ans, 10 ans maximum. Et elle peut évoluer en fonction peut-être des circonstances de l'association, de l'Église, mais elle peut aussi évoluer en fonction des circonstances extérieures. Et puis le dernier V, qui veut dire valeur, Eh bien, elle détermine, elle se détermine en fonction des principes qui nous animent. C'est un peu le lien qui nous permet de nous reconnaître et d'agir dans notre conduite. Souvent, on connaît des valeurs éthiques. En tout cas, en bref, aujourd'hui, une entreprise, une association et une église, elle peut communiquer clairement lorsque sa VMV est très claire. Alors vous me direz, bon, mais ces termes VMV font bien partie de notre société d'aujourd'hui. Mais savez-vous que la Bible en parlait déjà bien longtemps avant, peut-être pas sous ces mêmes termes, mais dans cette même pensée. Et c'est pour ça que ce matin, je voudrais partager avec vous un épisode bien connu qui se trouve dans Exode, dans le livre d'Exode. Ce passage connu où Moïse est face au buisson ardent. Ça va nous permettre d'approfondir qu'est-ce que vient faire une VMV dans la Bible et qu'est-ce que vient faire une VMV dans ma vie. Et voilà, ma prière est que Dieu nous enseigne à travers ce message. Et puis, peut-être au début, c'est aussi important de comprendre que ça peut me concerner de manière individuelle, quelle est ma VMV, mais aussi en tant qu'Église, quelle est notre VMV? Et je crois comprendre dans cette période où deux églises se rapprochent chez vous, eh bien c'est aussi toute une réflexion. Quelle est la vision de l'Église? Quelle est la mission de l'Église? Quelles sont nos valeurs? Qu'est-ce qui nous rassemble? À travers l'expérience vécue de Moïse et du buisson ardent en plein désert, eh bien Dieu va donner un enseignement précieux à Moïse. Et cet enseignement, je crois qu'il est toujours valable pour nous aujourd'hui. En tout cas, c'est ma prière que nous recevions cet enseignement à travers ce temps du culte. Voilà, donc si on peut mettre le texte biblique. Voilà, merci. Exode 3, versets 1 à 12. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père, Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder, et Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Et Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu des cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays. Jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Et Dieu dit, je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. La parole de Dieu est là, et la vérité, qu'elle pénètre dans nos cœurs. Alors, diapo suivante. Le contexte. Oui, le texte suivant. Une scène, juste un seul, s'il vous plaît. Une scène, un buisson d'ardent dans le désert. Je ne sais pas si vous êtes allé dans un désert, mais les buissons, bon, il en existe quelques-uns. En tout cas, là, la Bible nous parle d'un buisson, je présume un buisson commun, un buisson neutre, pas spécialement de valeur. Et puis un feu qui représente la présence de Dieu, qui se manifeste par la gloire de Dieu, par sa magnificence, par sa puissance et par sa sainteté. Un buisson qui est, on va dire, banal, mais qui est réceptif à être enflammé par ce feu. Et puis le buisson, combiné avec du feu, eh bien, c'est ce qu'on appelle un buisson ardent. Alors Dieu veut donner un enseignement à Moïse, mais il le rend participant. Il le rend participant de cet enseignement. Il le rend acteur avec cette image qu'il veut imprégner à son cœur. Oui, Dieu a un plan. Il a son plan dans lequel sa volonté va s'accomplir. Et pour cela, il désire aussi que Moïse devienne l'instrument de ce plan pour accomplir cela, la vision, pour accomplir sa vision. Oui, de même, Dieu veut se servir de nous chrétiens, pour accomplir son plan, pour accomplir sa vision envers le monde. Il veut, à travers cette image du buisson ardent, eh bien, nous rendre participants de ce plan. Alors c'est vrai qu'à vrai dire, on se sent complètement insuffisant pour répondre à une telle responsabilité. Dieu le sait. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'accueillir, de recevoir une vision et de réaliser une mission. Enfin, le texte suivant. Avoir une mission sans vision peut être aussi un piège. C'est pour ça que j'ai mis la phrase « Attention de vivre une mission sans vision ». Et c'est souvent un piège dans lequel nous tombons, parce que si on veut obéir, aller quelque part, mais sans savoir dans un sens pourquoi, eh bien souvent on risque de tourner en rond, on risque de servir au mauvais endroit, au mauvais moment, on risque de tomber dans l'activisme, où on risque tout simplement d'abandonner parce que sans vision, eh bien, le peuple meurt. Sans vision qui nous renouvelle, eh bien, on abandonne. Diapo suivante. La vision est donnée à Moïse. Dieu veut lui donner une vision. Et pour cela, je vous propose une vision à trois dimensions. Cette vision était là pour donner le fondement de l'identité de Moïse. La première dimension, eh bien, qui suis-je? Qui est celui qui te parle? Qui est Dieu? Avant toute chose, regarde qui je suis. Je suis celui qui suis. Et c'est vrai qu'à travers cette image de buisson ardent, on peut discerner qui est Dieu, puisqu'il se révèle à nous. Il est le Dieu créateur. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'histoire avec un grand H, puisqu'il dit « Je suis le Dieu de tes pères, d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Et combien à cette époque c'était important de connaître son histoire, d'où l'on vient. Un Dieu réel, un Dieu puissant, un Dieu de gloire, etc., etc. De même que pour Moïse, c'était important de comprendre qui est Dieu, eh bien moi j'ai besoin de comprendre qui est mon Dieu. On l'a loué ce matin, on a chanté de ce Dieu qui protège. On a besoin de comprendre, parce que mon identité, ma propre vision, eh bien elle est là quand je comprends qui est Dieu. Mon identité est d'abord en Christ, elle est d'abord en lui. Et avant d'accomplir quoi que ce soit pour Dieu, Eh bien, j'ai besoin de remplir mes yeux. J'ai besoin de remplir mon cœur de sa gloire. J'ai besoin de comprendre et de voir Dieu, comment il est vraiment, son amour, sa passion, sa foi. On l'a chanté ce matin, j'ai relevé ces paroles dans le chant, mon ancre et ma voile. Tout ce que je suis me vient de toi. Et effectivement, notre identité est vraiment en Christ. L'apôtre Paul nous le rappelle dans 2 Corinthiens 3, verset 18, où nous sommes appelés à devenir le miroir, le reflet de la gloire de Dieu. Quelle responsabilité! Mais pour être le reflet, il faut bien connaître la lumière qui va nous donner ce reflet. Donc j'ai besoin vraiment de connaître mon Dieu. Et j'insiste sur le « mon ». C'est un Dieu personnel, un Dieu qui va toucher mon cœur. Il est aussi pour les autres, mais il est aussi pour moi. J'ai besoin de connaître Dieu tel qu'il va se révéler à moi. Et quand je connais bien Dieu, alors c'est là que je vais bien me connaître, moi-même. Et à l'image de Moïse qui a dû enlever ses sandales, parce que l'ange lui a dit « non, enlève tes sandales, parce que ce lieu est saint, tu ne peux pas t'approcher », eh bien moi aussi j'ai besoin d'enlever mes sandales, j'ai besoin d'enlever tout ce qui fait obstacle à cette gloire, j'ai besoin d'être purifié. Et souvent, cet appel à la repentance est important. Vous savez, quand Dieu se présente à nous, obligatoirement, on passe par cette phase de repentance. Parce que quand on comprend qui est Dieu, alors on comprend qui nous sommes et qu'on a vraiment besoin de cette repentance. Tellement cet éloignement de Dieu, eh bien, on a besoin tout simplement de demander pardon pour s'approcher de lui. Et bien entendu, lui, il nous accueille comme il a accueilli Moïse. Il ne lui a pas dit non, écoute, va plus loin, tu es indigne d'être là. Non, il lui a juste dit, purifie ton cœur, viens, enlève tes sandales et viens me voir. Deuxième dimension, eh bien cette vision, on a besoin de connaître le cœur et la passion de Dieu. Dans le texte, au verset 7, si vous vous rappelez, il est écrit que Dieu allait dévoiler sa passion pour le peuple. J'entends les cris, j'entends les vrais cris, la véritable souffrance, la douleur profonde de mon peuple. Moïse, vous savez, ça faisait plusieurs années qu'il était dans le désert, loin du peuple d'Israël, donc à l'époque, il n'y avait pas le téléphone ou les informations. Donc, il avait peut-être un peu perdu, mais il avait besoin de connaître le véritable regard de Dieu sur le peuple, sur son peuple d'Israël. Ce n'est pas sa propre connaissance du peuple d'Israël, sa propre passion, on va dire, parce qu'elle pouvait être éphémère ou en tout cas atténuée. Mais c'était vraiment, il avait besoin de connaître la passion, le cœur de Dieu qui fait partie de la vision. Moi aussi, j'ai besoin de connaître les personnes qui m'entourent avec le cœur et le regard de Dieu. J'ai besoin d'entendre, j'ai besoin de connaître la souffrance, de voir la souffrance, le cri de l'autre. Vous savez, on vit une période difficile. Le plus difficile, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de gens seuls. J'entendais récemment de dire que le taux de suicide, le taux de dépression est énorme parce que les gens ont besoin de contact. Et là, dans un confinement, eh bien, ils se laissent aller. J'entendais dernièrement une amie de l'église qui travaille dans un EHPAD et elle racontait l'histoire d'une dame âgée, bien entendu, mais qui disait je me laisse mourir, je vois pas où est ma vie là. Elle était sur son lit, elle voulait plus se nourrir, plus se soigner. Quelle tristesse. Est-ce qu'on entend ces cris? Dieu les entend. Dieu entend les cris de tous ces gens. Est-ce que nous on les entend? Est-ce qu'on voit cette souffrance? On peut la deviner? Est-ce qu'on la regarde à travers le regard de Dieu? Comment est-ce que je vois mes contemporains? Et puis, nous qui travaillons dans, dans une mission, qui travaille parmi les musulmans, comment est-ce que je vois le monde musulman? Comment est-ce que je discerne mon ami musulman, mon voisin qui est à côté de moi? Est-ce que je le vois à travers les médias, le message des médias qui transmettent des messages? Et vous savez, on est tellement influencé par les médias. Mais là, c'est vraiment le regard du monde, le regard du monde sur le monde, avec ses propres jugements, ses propres réactions. J'ai besoin, comme chrétien, j'ai vraiment besoin du regard de Dieu, un autre regard. Mais pour ça, je dois le connaître. Parce que le cœur de Dieu, ce regard, cette passion de Dieu, elle doit faire partie de ma propre identité, de ma propre vision à moi. Qui suis-je? Oui, pour aller témoigner vers mon prochain, j'ai besoin de mieux le connaître, j'ai besoin d'entendre. Et quelquefois, on ne se rend pas compte, mais même notre propre voisin, on ne le connaît pas. On ne connaît pas sa souffrance. Et j'ai besoin de vivre cette passion de Dieu qui doit envelopper complètement la mienne. Et c'est pas une passion éphémère, c'est pas une passion émotionnelle, ça n'enlève pas qu'il y ait de l'émotion. Dieu a aussi un côté émotionnel, mais c'est une émotion qui dure, c'est une passion, un cœur qui dure, un cœur qui ne peut pas s'arrêter. À l'image de ce buisson qui se consumait sans se consumer, qui brûlait sans se consumer, on va dire, eh bien, le cœur de Dieu, c'est la même chose. Il est toujours là. Je crois qu'un frère a aussi prié dans ce sens, cet amour qui ne change pas, cet amour qui est là, un feu qui dure continuellement. Troisième dimension, eh bien, c'est la vision, c'est la volonté de Dieu, c'est son plan. La première dimension, qui est Dieu? La deuxième dimension, eh bien, quel est le cœur, quel est vraiment l'intérieur de Dieu, la passion de Dieu pour les autres? Et la troisième dimension, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Que veut-il faire? Quel est son plan? Dieu a un plan, un but défini. Autant de tous les prophètes, tous les écrits des prophètes montrent le plan de Dieu pour le peuple d'Israël. Et là, il est souvent écrit, Dieu est descendu. Et même là, c'est écrit Dieu dans notre texte, Dieu est descendu. Il a vu les cris des Israélites. Dieu descend. Dieu voit, Dieu visite son peuple. C'est une prophétie qui s'est accomplie dans le temps et puis qui s'accomplit aujourd'hui encore. Oui, Dieu descend pour nous bénir, pour nous visiter, pour nous sauver. On va fêter Noël dans quelques semaines, quelques jours maintenant. Eh bien, quelle belle image, Dieu qui est vraiment descendu. Dieu qui s'est fait chair, Dieu qui a envoyé Jésus comme un petit enfant, mais un enfant qui est notre médiateur. Et le Saint-Esprit nous anime, manifeste dans nos cœurs cet amour, cette puissance. C'est l'initiative de Dieu, c'est lui qui est venu. De la même manière que pour Moïse, dans ce désert, eh bien, c'est le buisson qu'il a attiré, il y avait un buisson en feu, il l'a attiré, il est venu. Eh bien, de la même manière, nous sommes attirés vers Dieu qui descend vers nous. Le plan de Dieu, il descend vers nous parce qu'il est là, parce qu'il est avec nous. Alors je peux connaître sa volonté pour moi-même, je peux connaître sa volonté pour l'humanité, parce que la terre entière sera remplie de sa gloire. Alors connaître la volonté de Dieu, eh bien c'est aussi connaître mon identité, tout ce qui va m'inspirer, ma propre volonté. Oui, chers amis, dans nos vies chrétiennes, nous avons besoin d'un fondement sûr et solide, un fondement qui nous fait tenir au milieu de toutes les tempêtes, de tous les obstacles, peut-être même justement celles que nous vivons en ce moment avec la Covid-19. Est-ce que ces circonstances ébranlent notre foi? Est-ce que ces circonstances ébranlent notre identité en Christ? Non, chers amis, si elle est ancrée en Christ, eh bien, elle est là avec nous parce que nous connaissons le vrai Dieu, nous connaissons son cœur, nous connaissons sa passion pour nous, pour l'humanité, et en plus nous connaissons son plan qui est merveilleux de répandre cet amour au milieu de nous. Est-ce qu'on a besoin d'un autre fondement que cela? Est-ce qu'on a besoin d'autre chose pour ancrer notre identité en Christ? Voilà, en tout cas, c'est un encouragement que Dieu veut nous adresser ce matin. Notre identité est vraiment en Christ. Notre vision, notre premier V de VMV est en mission et est ancré en lui. Alors, passons au M, diapo suivante. Voilà, après la vision, il faut une mission. La vision, je répète, c'est Dieu qui dit, voilà, c'est moi qui agis avec mon cœur, avec ma volonté. La mission, eh bien, c'est, oui, le texte suivant. La mission, c'est Dieu qui dit, va, je t'envoie. Alors, on connaît bien l'épisode, parce que souvent, c'est l'épisode fondateur de la mission, entre autres, avec l'appel que Dieu a adressé à Abraham dans Genèse 12. On dit souvent que c'est un des premiers versets missionnaires. Va, Genèse 12, verset 1, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Voilà la mission que Dieu a confiée à Abraham et ses mots résonne encore aujourd'hui dans nos oreilles, dans notre entendement. Dieu n'indique aucune destination initiale. Juste va, allez vers. Toutefois, avant de dire allez vers, il y a aussi un mot qu'on oublie souvent, il y a le mot quitte. Oui, Dieu avait son plan. Avait un plan pour Abraham. Un plan pour l'humanité. Un plan pour le peuple d'Israël. Il a dit, c'est vrai, à Abraham, va, je t'envoie. Comme il a dit à Moïse, va, je t'envoie aussi auprès des Israélites. Là, l'objectif était un peu plus clair. Mais n'oublions pas que Dieu est descendu vers nous. Donc, c'est plus un va, je t'envoie et tu vas être tout seul. Va vers l'inconnu et puis on verra bien ce qui arrive. Non, c'est un « va », mais veux-tu venir avec moi? Viens avec moi. Ça change tout. Ça change tout parce que là, on n'est plus seul. On n'est plus sur le chemin tout seul avec son bâton et puis on verra bien où on va aller, sans ou avec GPS. Ce n'est pas là le problème. Mais on sait qu'on est avec le guide. On est avec celui qui nous accompagne. Ou plutôt, c'est nous qui l'accompagnons. Ça change tout. Avoir une mission comme cela, ça change tout parce qu'on n'est plus, en train de chercher ce qu'on doit faire, on doit simplement écouter et puis suivre les pas de celui qui nous précède. Même si peut-être l'inconnu est flou pour nous, eh bien, pour celui qui nous précède, ce n'est pas flou parce qu'il sait où il va. Oui, pour qu'une mission existe, eh bien, il faut qu'il y ait l'envoyeur et il faut qu'il y ait l'envoyé. Alors, comment est-ce que je suis, moi, aujourd'hui, avec ma mission, c'est-à-dire la mission que Dieu me confie? Il veut que j'aille, il veut que je sorte, il ne veut pas que je reste dans mon endroit. Sortir, ça ne veut pas forcément dire aller au bout du monde, hein, mais simplement quitter peut-être sa zone de confort, ses habitudes, ses réactions, ses pensées, ses raisonnements, pour suivre tout simplement, mettre la main dans la main du Seigneur et puis avancer et avancer pas à pas. Quel beau programme. Alors, quelles sont les réactions de Moïse? Ben, Moïse, il a la même réaction que nous, on a, en tout cas, que moi j'ai, et je pense que vous êtes d'accord de prendre aussi pour vous ces termes. Qui suis-je? Mais moi, qui suis-je? Je suis une personne, je n'ai pas de talent particulier, je suis une personne commune, je n'ai pas de valeur. Je suis comme un buisson. Et là, je prends l'image d'un buisson dans le désert. Eh bien, bon, ben, c'est chose commune, hein. Je ne sais pas si vous êtes allé dans des déserts déjà, mais bon, il y a beaucoup de buissons, ou alors il n'y en a pas du tout, mais en tout cas, bon, c'est chose courante. Un buisson quelconque. Mais Dieu rappelle à Moïse que c'est lui qui l'envoie, c'est le je suis qui l'envoie. Et finalement, j'ai envie de dire, peu importe qui tu es vraiment, ce qui compte, c'est que moi, je suis avec toi. Tu n'as pas besoin de plus que moi. Simplement, comme un simple buisson dans le désert, eh bien, tu dois juste être réceptif à mon feu. Comme Moïse, nous voyons des obstacles, des tas d'obstacles. Et je laisse chacun mettre les obstacles devant ses yeux. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'être embrasés par ce feu qui nous envoie tout simplement? Que cette parole aujourd'hui nous encourage. Dieu me dit, je suis le feu dans ton buisson. Je suis le feu de ton buisson. Je suis ta direction. Je suis ta gloire. Je suis ta sécurité. Et ça nous a été vraiment rappelé ce matin. Et merci aux frères d'avoir insisté sur cette protection, sur cette sécurité. Dieu est notre sécurité. On a l'impression quelquefois de ne pas savoir où on va. Et cet épisode de Covid nous rappelle tellement de. Voilà, de circonstances. On ne sait pas de quoi sera fait demain, la semaine prochaine. Et ça nous perturbe parce que tous nos projets sont enlevés, mais on a la sécurité que Dieu, lui, sait et il va nous mener journée après journée, semaine après semaine, mois après mois. Eh bien, il va nous mener parce que lui, il a son plan pour moi, pour toute l'humanité et son plan pour tous ceux qui nous entourent. Quelle certitude! Souvent, on considère un peu le missionnaire comme un, si j'ose employer le terme marseillais, j'ai vécu enfin à Marseille aussi, donc je le connais, on est un peu comme des fadas, comme des fous. Alors c'est vrai que quand on lit la biographie de certains missionnaires, comme Wesley, comme Hudson Taylor, comme Charles Stud, voilà, on dit, mais c'était un peu des fous, hein. Ils étaient loin d'une raison humaine. Et ils sont partis dans des conditions tellement inimaginables, au péril de leur vie. Je me permets là de faire une parenthèse aussi pour tous ces missionnaires dont on mentionne jamais le nom, mais qui partaient et qui mouraient au bout de quelques jours, quelques semaines. Une des devises, c'était pars avec ton cercueil. Voilà, bon, cette époque, elle est passée, même si aujourd'hui, eh bien, des missionnaires et des chrétiens locaux meurent pour leur foi. Eh bien, voilà, il y avait cette passion, ce cœur de Dieu pour aller vers l'autre, et puis au dépit de sa propre vie, au péril de sa vie. Voilà, que cette mission que Dieu nous confie, parce qu'il nous l'adresse aujourd'hui, il nous envoie. Nous ne sommes pas chrétiens uniquement pour rester assis sur une chaise et assister à des cultes ou même à des réunions de prière toutes les semaines. C'est bien, il faut le faire parce que c'est ça qui nous renouvelle. Mais nous sommes appelés à être des flambeaux, à être sel et lumière de la terre. Donc, autour de nous, tout simplement. Alors, le troisième V, VMV, les valeurs. Alors, je ne vais pas m'attarder longtemps, parce que d'une part, j'aimerais que chacun de nous pose les valeurs qui sont importantes pour lui, pour elle. Mais je vous donne quand même une piste. Et une piste, c'est tout simplement le fruit de l'esprit. Qu'est-ce qui caractérise justement un chrétien? Nous qui travaillons en mission avec des ONG, hein, donc faire un peu une œuvre humanitaire ou une œuvre sociale pour aider et en même temps, voilà, partager l'évangile à travers l'amour de Dieu. Eh bien, on côtoie aussi d'autres ONG, des personnes engagées, mais qui ne partagent pas, eux, notre foi, qui restent dans, l'humanisme. Alors, qu'est-ce qui nous différencie à nous chrétiens? Qu'est-ce qui nous fait qu'on dise, ah, il y a quelque chose de différent chez cette personne? Eh bien, c'est tout simplement le fruit de l'esprit qui est tout simplement aussi les valeurs qu'on peut mettre dans notre VMV. C'est l'amour, le plus grand de tout. Hein, l'apôtre Paul dit, mais voilà, ce qui compte, c'est l'amour. J'ai beau faire toutes les choses de la terre, je suis comme une cymbale qui résonne. C'est l'amour, c'est vraiment l'amour, parce qu'on est là pour refléter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, Dieu est amour, c'est sa nature. Tout ce qui n'est pas amour n'est pas de Dieu. La joie, voilà, trop souvent il nous manque cette joie. Oh, c'est pas toujours une joie exubérante, mais cette joie, cette certitude, ce repos, la paix. Combien notre monde a besoin de paix aujourd'hui? On n'entend parler que de violence, que de haine. Eh bien, la paix est là pour arrêter le cycle de la violence. Nous sommes des enfants de paix, comme le dit la prière de Saint François d'Assise, enfants de paix. La patience. Ah, trop souvent, on aimerait que les choses aillent vite, et c'est vrai que dans le monde missionnaire, on aimerait tellement que tout le monde soit vite sauvé, et il faut être patient parce qu'il faut aussi voilà, aller au rythme de Dieu. Dieu connaît, Dieu a son plan. Entrons simplement dedans. Être aimable, avoir cette amabilité. Combien cette amabilité change des circonstances. Être bon, débonnaire. Or, on considère quelquefois cette bonté comme une faiblesse. En tout cas, dans le monde musulman, quand voilà, un chrétien est un chrétien, enfin, c'est un croyant faible. Non, parce qu'il faut être fort, mais la bonté, c'est une force énorme. Être bon envers mon prochain. Être bon. Être fidèle. Aujourd'hui, tellement cette valeur, elle est réduite à rien. Combien de couples qui se sont pourtant jurés fidélité, eh bien, se séparent. Voilà, des projets dans lesquels on a promis et puis finalement, on n'est pas fidèle. Merci à Dieu de nous montrer que lui, il est fidèle. Être doux dans ce monde de brut, on va dire, qu'est-ce que ça fait du bien d'amener la douceur et la maîtrise de soi. Voilà, et je vous laisse mettre d'autres qualificatifs, mais qui font partie de nos valeurs. Diapo suivante. Alors, en conclusion, vous savez ce qui est important, en tout cas pour moi et je pense pour chacun de nous, quand on écoute une prédication, c'est l'après. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de la parole de Dieu? Ce n'est pas mes propres paroles qui comptent, ce n'est pas tout ce que je peux dire, c'est vraiment comment la parole de Dieu peut pénétrer dans nos cœurs et nous faire agir, parce que c'est ça qui tient. Oui, le texte suivant. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui ont une solide VMV, une solide vision, une solide mission et des valeurs solides. Mais ça ne signifie pas que Dieu cherche uniquement des hommes et des femmes solides. On le voit bien dans l'épisode de Moïse. Tout de suite, Moïse a dit, mais attends, mais qui suis-je? Je suis un pauvre homme, j'ai du mal à parler, allez moi me présenter devant Pharaon et devant ses princes, etc., devant ceux qui peuvent faire des miracles. Non, non, je suis rien, moi je suis un petit berger dans le troupeau. Est-ce que Dieu cherche à tout prix des hommes et des femmes solides? Enfin, le texte suivant. Nous sommes comme un buisson dans le désert, pour reprendre l'image du buisson. Un simple buisson. Mais Dieu a besoin de ce buisson. Parce que sans buisson, il ne pouvait pas y avoir de feu. Il ne pouvait pas y avoir de buisson ardent. Dieu a besoin d'un buisson qui devienne ardent par son feu. En nous donnant la vision de qui il est, en nous donnant la mission de quitter et d'aller, Dieu veut mettre tout simplement son feu à l'intérieur de nous, à travers nous, à travers notre bouche, à travers nos mains, à travers nos pieds, à travers nos jambes, à travers notre métier, à travers nos passions. Texte suivant. Le buisson tout simple, effectivement, est devenu ardent par le feu. Dieu nous appelle donc à recevoir, à accueillir ce feu sur ma vie. Un mot d'encouragement pour ceux qui ont l'impression peut-être de s'épuiser ou d'être fatigués. N'oublions pas que c'est un buisson qui ne se consume pas. Et j'ai envie de dire, dans le service du Seigneur, dans tout ce qu'on peut faire pour lui, eh bien, il n'y a jamais de burn-out. Quand il y a du burn-out ou de la dépression parce qu'on est, voilà, on est trop faible, eh bien, c'est parce qu'on met trop d'humain dans le plan de Dieu. Quand c'est Dieu qui nous envoie, pas de burn-out, quel réconfort. Et puis, un buisson qui résonne de sa gloire, de la chaleur, chaleur de Dieu. Et puis, au-delà d'un simple buisson, nous faisons partie de son Église, de tous ces croyants qui sont rassemblés. Et là, nous sommes une Église avec, je ne sais pas le nombre de participants en Zoom, et puis peut-être tous ceux qui nous écoutent ailleurs et qui vont nous écouter, l'Église de Paris-Nation, l'Église de Montreuil. Eh bien, nous sommes, chacun étant un petit buisson, eh bien, nous sommes comme une forêt de buissons. Alors, autant un buisson qui reçoit du feu, ben, crée une lumière et attire. Vous imaginez une forêt de buissons qui attire? Quelle belle image pour dire que nous sommes appelés à être lumière dans ce monde. Alors, les gens qui nous entourent vont être étonnés. Qu'est-ce qui se passe dans cette église? Il y a quelque chose. Eh bien, comme Dieu est descendu pour visiter les nations, son peuple, eh bien, Dieu, nous sommes appelés aussi à descendre, en tout cas à aller vers ceux qui ont besoin de mon feu, de son feu, pardon. C'est important, ils ont besoin de son feu. Moi, je suis que le porteur de cette lumière. Alors, viens, mais va, mais viens avec moi, nous dit le Seigneur ce matin. Je te donne la vision de qui tu es à travers qui je suis. Je te donne ta mission à travers ma mission. Et je te donne tes valeurs à travers les miennes. Et ces valeurs, tu peux les avoir dans mon livre, la Bible. Va, je suis avec toi. Ton buisson sera animé par mon feu. Ésaïe 60, versets 1 à 3. Et je termine par Hébreux 12, car notre Dieu est un feu qui nous consume. Alors que ces quelques paroles soient utiles pour nous et nous aident à recevoir tout simplement ce que Dieu veut que nous soyons, là où Dieu veut que nous allions, et vivre cette vie de plénitude à laquelle il nous accueille par son Saint-Esprit, jour après jour. Que le Seigneur bénisse surtout sa parole. Amen.